Albert Ndouaïa sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à Sous-Journal, dont voici d'abord le sommaire. L'organisation de défense des droits des prisonniers Nabariza se dit préoccupée par le nombre de femmes incarcérées pour de graves infractions et plaide que ces dernières soient concernées par la grâce présidentielle. Vous l'entendrez. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida se réjouit des progrès réalisés par le Burundi dans la lutte contre le virus du sida. Le nombre de nouvelles infections aurait diminué de plus de 73%. Et les décès liés à cette maladie ont également fortement baissé, selon le docteur Aimé Ndayizeye, responsable du programme national de lutte contre le sida. Et les riziculteurs de Gihanga, encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo SRDI, se lamentent du manque d'eau d'irrigation et craignent qu'ils sont en train de travailler à perte. Ils demandent aux responsables de la SRDI de procéder à une bonne organisation pour la distribution des quantités d'eau disponibles. Bienvenue à cette édition.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Ouvrons ce journal par la page Justice. L'organisation de défense des droits de détenus Nabariza se dit préoccupée par le nombre de femmes incarcérées. Propos de Jean-Marie Chimilimana, président de l'organisation, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Selon le président de Nabariza, la situation est préoccupante, car même lorsque les détenus bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une grâce collective, les femmes ne sont souvent pas concernées. Il appelle le président de la République ainsi que les élus du peuple à agir pour que ces femmes ne soient pas oubliées. On l'écoute.
Une autre réalité que nous avons observée dans les prisons concerne les femmes incarcérées. Elles sont très nombreuses et pourtant, lorsque une liberté provisoire est accordée aux autres détenus, les femmes en sont bien souvent exclues. Cela constitue une atteinte flagrante aux droits humains. Au cours de notre enquête, on nous a dit que lorsqu'une femme commet une infraction, celle-ci est perçue comme grave. Ce préjugé contribue à leur maintien en détention. Au sein de l'association Nabariza, nous plaidons pour ces femmes et demandons que celles ayant déjà purgé plus d'une année de leur peine puissent bénéficier de libération car elles se seraient déjà repenties. C'est pourquoi nous lançons un appel aux élus du peuple, parlementaires et sénateurs afin qu'ils plaident en faveur de ces détenus et qu'ils œuvrent à soulager la souffrance de leurs familles. Nous interpellons également le président de la République, lui qui nomme le procureur général, pour qu'il fasse tout ce qui est en leur pouvoir afin d'apporter un peu d'apaisement au cœur meurtri des proches de ces prisonnières. Nous parlons ici d'une réalité que nous connaissons bien. Après avoir passé 12 années en prison, nous pouvons affirmer que ce n'est pas un lieu où l'on peut espérer trouver la joie.
Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de Nabariza, ayant été traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Le non-respect des lois dans le pays, notamment le refus de libérer les détenus acquittés, favorise l'impunité, les autorités chargées d'exécuter les décisions juridiques. C'est ce qu'affirme l'avocat conseil Maître Simon Sibomana. Selon lui, cette situation nuit à la crédibilité du pays en matière de respect des droits fondamentaux et dissuade même les investisseurs étrangers inquiets de ne pas voir leurs intérêts protégés dans un environnement juridique incertain. L'avocat conseil appelle les procureurs et les responsables pénitentiaires à changer de comportement. On l'écoute.
Les conséquences pour ces irrégularités pour le pays en général et pour les familles des concernés sont nombreuses. La première que je préciserai, c'est une culture d'impunité. Cela contribue à développer une culture d'impunité et ce qui n'est pas une très bonne chose. La deuxième conséquence, c'est au niveau des familles de ces personnes détenues et sur ces détenus eux-mêmes. Ça a un coût économique énorme parce que premièrement, la personne qui est active et qui devrait être en liberté pour travailler pour elle et pour sa famille ne bénéficie pas de ce droit d'être libre et de travailler pour son développement et pour le développement de sa famille. La famille aussi est obligée de temps en temps à lui rendre visite, à lui procurer des vivres. Vous avez entendu souvent des pénuries de vivres dans les établissements pénitentiaires. Et ça constitue aussi un coût pour l'État parce que s'il y a des centaines de prisonniers qui devraient être en liberté, mais qui continuent à être pris en charge par l'État. Mais c'est une marvelisation des fonds de l'État en une autre façon si on devrait pousser la question en profondeur. Autre chose, c'est en termes de crédibilité du pays en général. De telles pratiques, ça ternit énormément l'image du pays auprès des partenaires internationaux, auprès des investisseurs internationaux potentiels qui peuvent dire que c'est vraiment un pays qui ne respecte pas les droits de la personne humaine. C'est difficile d'aller investir dans ce contexte. Je leur conseillerais de se ressaisir et de respecter la loi en libérant toutes les personnes qui doivent l'être.
Maître Simon Siboman ajoute également que les organisations de défense des droits humains ainsi que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, devraient être les premières à s'opposer aux décisions qui portent atteinte aux droits des citoyens. Selon lui, ces institutions ont la responsabilité de dénoncer les abus et de veiller à ce que les lois soient respectées, surtout lorsqu'il s'agit des violations flagrantes des droits fondamentaux. Suivez-le encore une fois.
Des responsables des différentes institutions comme la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'est censé être un organe indépendant qui devrait se prononcer clairement pour appeler les autres institutions, les autres autorités de l'État à faire cesser ces violations des droits de l'homme. En dernier lieu, j'ai parlé des campagnes de sensibilisation, de moralisation, d'appel à responsabilité. Il faut qu'il y ait vraiment organisation des campagnes à l'instar de celles qui ont été organisées par le chef de l'État pour appeler ces mandataires publics à ne pas abuser des pouvoirs qui leur sont conférés par l'État.
La radio de l'avenir. Page santé à présent, je vous le disais en titre, le ministère de la Santé se réjouit des progrès réalisés par le Burundi dans la lutte contre le virus du sida. Le nombre de nouvelles infections aurait diminué de plus de 73% et les décès liés à cette maladie ont également fortement baissé, selon le docteur Menda Izeye, responsable du programme national de lutte contre le sida. Il ajoute également que les personnes doivent éviter les relations sexuelles non protégées, car cela continue à favoriser la transmission des infections sexuellement transmissibles. On l'écoute.
Nous sommes jusqu'à aujourd'hui parvenus à réduire à plus de 73% le nombre de nouvelles infections à VIH. Nous avons aussi réduit à plus de 72% le nombre de décès qui sont liés au VIH. Vous comprenez que là, nous sommes en train d'être efficaces par rapport à la prévention des VIH, mais aussi efficaces par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. L'autre élément que nous pourrons signer, c'est la référence par rapport aux cibles 95, 95, 95, et que nous sommes préconisés à atteindre vers la fin de cette année 2025 pour sécuriser les progrès jusqu'à 2030 où nous serons certifiés d'avoir atteint l'élimination du VIH. Par rapport au premier 95, nous avons maintenant 95,5% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent les statistiques sérologiques. Pour le deuxième 95, nous avons 99,9% de personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Et pour le troisième 95, nous avons 91,8% de personnes sous traitement antirétroviral qui ont une charge virale indétectable. Ce que je dois dire, c'est que la plupart de ces problématiques ils sont transmissibles par voie sexuelle quand l'une des personnes est malade, comprenez qu'elle contamine les autres. Que ce soit le VIH, que ce soit pas mal de maladies transmissibles sexuellement. Et d'ailleurs, il y a des infections qui sont plus transmissibles que le VIH. L'hépatite virale B qui est 100 fois plus transmissible que le VIH. L'hépatite C qui est aux environs de 10 fois plus transmissible que le VIH. Vous comprenez que c'est vraiment une grande problématique. Aujourd'hui, la jeunesse et les jeunes filles, ils ont tendance à avoir peur de grossesse non désirée. Pourquoi ils sont en train d'utiliser les pilules de lendemain? Mais vous comprenez que l'affaire n'est pas réglée. C'est pourquoi nous encourageons dans un premier temps l'abstinence sexuelle. Et à défaut, quand il y a des que c'est difficile, c'est là où nous encourageons les gens, les adultes, à utiliser le préservatif.
Placé à l'agriculture, les riziculteurs de Guihanga, encadrés par la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo et CRDI, se lamentent du manque d'eau d'irrigation et craignent qu'ils soient en train de travailler à perte. Ils demandent aux responsables de la SDI de procéder à une bonne organisation pour la distribution des quantités d'eau disponibles. Jean-Kennedy Samaniro, directeur d'encadrement de cette société, explique que l'eau diminue normalement pendant la saison sèche, mais que la société essaie d'élaborer un calendrier d'irrigation pour tout son espace pescarité à Scamagnana.
Les riziculteurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo et celle d'Aïe en cycle, rencontrés dans le champ au village 6 de la zone Guihanga, se lamentent du manque d'eau d'irrigation et disent qu'ils risquent de ne rien récolter. Certains disent qu'ils font ces travaux de culture de riz avec des dettes contractées auprès des banques et risquent d'avoir des problèmes liés au non-remboursement. Ils demandent aux responsables de la SLDI de résoudre ce problème de manque d'eau d'irrigation et de procéder à une bonne organisation dans la distribution d'eau qui est disponible. Au niveau de la SLDI, on reconnaît que pendant la saison sèche, l'eau diminue normalement dans toutes les rivières et par conséquent dans les barrages hydro-agricoles et dans les canaux d'irrigation, selon Jacques Kennedy Samaniro, directeur d'encadrement à la SLDI.
Dans cette période où nous sommes dans la deuxième saison, rizicole, c'est une période qui coïncide avec la saison sèche. Et dans cette période, au niveau des rivières, le débit d'eau diminue. Et si le débit d'eau diminue dans les rivières, c'est consécutif au niveau des canaux d'irrigation. S'il y a des lamentations comme quoi il y a des chats qui ne sont pas, qui sont en train de manquer de l'eau d'irrigation, tout simplement, ce que nous demandons à ceux qui s'improvisent à cultiver en blavé des superficies qui ne sont pas prévues pour la deuxième saison de stopper cette pratique puisque ça perturbe l'irrigation dans la zone qui est choisie.
Il tranquillise cependant les cultivateurs et les consommateurs.
C'est pourquoi alors nous tranquillisons les riziculteurs, nous tranquillisons les consommateurs. La production sera bonne comme d'expérience. Nous suivons de près, nous essayons de faire le tour d'eau, le partage d'eau pour pouvoir répondre à la demande.
Jacques Kennedy Samaniro explique également que pendant la saison sèche, les superficies à cultiver sont diminuées, passant de 4 800 hectares pendant la saison pluvieuse à 1 800 ou 2 000 hectares pendant la saison sèche pour une bonne gestion d'eau d'irrigation. Spécialitas Kavanyana, Kihanga, Radio Isanganiro.
Se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoa pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean Bosco Douiman.
Évariste Nzikomanyanka.
Revue de la presse.
Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Marché de Musenyi, un joyau qui nécessite la modernisation, estime Burundi Echo. D'après ce journal, les gestionnaires du marché de Musenyi situé dans la commune Mhanda de la province Bujumbura affirment que ce marché contribue au développement de la dite commune. En moyenne, il fait entrer pas moins de 20 millions de francs burundais de recettes communales par mois. Selon eux, ces recettes proviennent en grande partie de la commercialisation de l'huile de palme, des bicyclettes, du riz, de la farine de manioc, etc. Pourtant, regrette ce confrère, il est en état de vétusté avancée car il date de très longtemps et sa capacité d'accueil devient de plus en plus petite par rapport à l'effectif des commerçants qui y sollicitent des stands. Le gestionnaire du marché de Musenyi, Désiré Nibogora, demande aux responsables de la commune Mhanda de les doter de machines modernes pour faciliter la collecte des recettes. Selon lui, cela permettra d'être plus performant en termes de rendement. Il demande alors aux responsables de la commune Mhanda de penser à la construction à hauteur du dit marché pour booster sa capacité d'accueil et d'ajouter la mise en place des pistes d'accès pour les camions anti-incendie dans l'objectif de sécuriser les produits des commerçants, écrit l'hebdomadaire socio-économique Burundi Echo. Les forêts reculent, les tubercules avancent, titre l'agence burundaise de presse, qui trouve que la protection de l'environnement semble de plus en plus négligée en commune Rwibaga, notamment au versant sud, près de Majombe, le long de la route nationale numéro 7. La BP a constaté que plusieurs boisements sont soumis à des coupes rases pour faire place à des champs de pommes de terre. Les arbres sont déracinés, brûlés, sans remplacement, une pratique aux lourdes conséquences environnementales. Comme le souligne un observateur local cité par ce quotidien gouvernemental, c'est comme s'il y a la branche sur laquelle on est assis. L'ABP note que la culture de la pomme de terre attire particulièrement les jeunes non scolarisés ainsi que des fonctionnaires natifs ou résidents de la localité en raison des revenus rapides qu'elle procure. Mais souligne son confrère, ce succès économique ne devrait pas cependant se faire au détriment de l'environnement et des ressources forestières locales.
Revue de la presse.
Les travailleurs de l'ancienne mairie de Bujumbura, largués dans d'autres communes de Bujumbura, rapporte l'agence Net Press, qui précise que le matin de jeudi, devant les bureaux de l'ancienne mairie de Bujumbura, il y avait plus de 100 travailleurs dont l'accès à l'intérieur a été refusé. Comme la mairie n'existait plus, l'on a procédé au redéploiement du personnel vers les trois communes qui composent la ville de Bujumbura, à savoir Nahangwa, Mugere et Mukaza. Au total, écrit ce quotidien en ligne, 214 travailleurs doivent se présenter dans la nouvelle commune de Nahangwa, 34 d'entre eux sont obligés de se présenter dans la commune de Mugere, au moment où 288 membres du personnel sont restés dans la commune de Mukaza, précise encore ce quotidien en ligne, qui relève que cette nouvelle organisation avait inquiété les syndicats qui voyaient en ce nouveau découpage administratif une source de désordre dans l'emploi des personnels. Enfin, Gaseke Bouyé, la toiture qui a tout pour plaire, sauf le prix, titre un blogueur du collectif Yaga. En effet, écrit ce blogueur, depuis 2006, le secteur de la construction au Burundi a vu émerger un nouveau style de charpente qui a marqué un tournant architectural. Face aux charpentes de l'époque en toiture à deux pans, Mugongo Atembo, ou à quatre pans, Cette nouvelle architecture a rapidement été perçue comme une innovation majeure. Son nom, Gaseke Buye, qui vient du fait que cette charpente a fait son apparition au Burundi dans le nouveau quartier du même nom, situé dans l'ancienne commune de Muha. Au Burundi, cette toiture a rapidement gagné en popularité, séduisant par son esthétisme et sa grande étanchéité. Néanmoins, derrière son succès, se cache un coût économique non négligeable, souvent ignoré. En conséquence, la célèbre toiture Gaseke Buye perd peu à peu de sa popularité, laissant place à la simplicité et au charme de la toiture cachée, qui séduit de plus en plus les constructeurs burundais. Une évolution qui traduit un changement de priorité, construire intelligemment sans sacrifier l'esthétique. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine.
Revue de la presse.